Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec jusqu'à 19h les grandes voix pour décortiquer les annonces du Premier ministre Édouard Philippe. Autour de vous ce soir, Sébastien Krebs, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, chef du service économie de la station, et puis bien sûr notre médecin maison, Jimmy Mohamed.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir à tous.
Merci d'être là ce soir dans le studio d'Europe 1 pour débriefer un peu tout ce qui a été annoncé aujourd'hui. Beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses pour mardi 2 juin, deuxième phase du déconfinement. La liberté redevient la règle et l'interdiction l'exception. Ça résume un peu tout. C'est une phrase du Premier ministre aujourd'hui, avec une carte de France, donc on le disait, quasiment intégralement en vert, Jimmy Mohamed. Seulement l'Île-de-France en orange, avec Mayotte et la Guyane. Pour vous, ça correspond à la réalité. On peut y aller, on peut se permettre de libérer un peu plus les choses là. Ça
tout le monde, on se le disait entre nous, mais personne n'osait le dire plutôt haut et fort. Effectivement, en médecine de ville, ça va faire un mois que j'ai pas vu de coronavirus et même les suspicions sont revenues négatives. En médecine hospitalière, c'est exactement la même chose. Même dans les zones où le virus circulait beaucoup et où là où le confinement n'était pas forcément respecté, mais pour diverses raisons. Donc là, on peut se dire qu'on peut souffler, mais néanmoins attention, notamment à aller aux espaces clos avec des contacts rapprochés, là où il y a de la foule. Et le parfait exemple, c'est le Japon, qui n'a fait ni confinement massif, ni test massif, mais ils ont très vite compris que les lieux critiques où l'épidémie pouvait partir, c'était les bars, les restaurants, les salles de sport, les chorales, les lieux de culte. Donc effectivement, on est en zone verte quasiment dans toute la France, mais ça ne veut pas dire que le virus n'existe plus, il circule, mais l'épidémie est contrôlée. Donc il faut néanmoins, si vous avez des symptômes, consulter, faire des tests, parce que l'épidémie peut repartir si tout d'un coup on se met tous à faire n'importe quoi. Malheureusement, ça peut revenir, même si là, on peut être plutôt tranquille et soufflé. Surtout quand on a parlé de la barrière des 100 km. Rappelez-vous, juste avant le confinement, on avait beaucoup critiqué ces Parisiens qui étaient partis dans les campagnes se confiner un peu au vert. Et bien finalement, ça n'a pas entraîné de seconde vague ou de surinfection, de surmortalité dans d'autres zones. Donc cette liberté de circulation, à mon sens, elle est nécessaire. Elle va faire du bien à beaucoup de monde.
Et dès mardi, donc, plus de limites pour se déplacer, en tout cas en France, hein, puisque les frontières, elles, restent fermées. Les lycées, donc, ouverts en zone verte. Les collèges, toutes les écoles et tous les collèges vont pouvoir ouvrir à partir de mardi prochain. Les restaurants, les cafés, c'était très attendu partout en France, y compris à Paris. Mais à Paris, ce sera uniquement en Île-de-France, ce sera uniquement les terrasses dans ces zones oranges. Mickaël Darmon, on a entendu un Premier ministre très optimiste. Malgré tout, on avait l'habitude de l'entendre très ferme sur les consignes. Il y a eu un changement de ton quand même aujourd'hui.
Il y a eu un changement de ton, effectivement. Il était, je pense, lui-même tout heureux de pouvoir enfin prononcer des paroles plus optimistes et d'avoir des propos liminaires qui étaient, on va dire, plus ouverts et avec des perspectives plus positives. Il a décliné, effectivement, l'ensemble des acteurs de la société, en premier lieu les personnels soignants qui ont combattu et qui ont fait en sorte que ce résultat, même un peu plus que positif, qui correspond au-delà même des attentes, soit donc mentionné. Et puis il a eu cette petite expression qui m'a fait un petit peu sursauter en l'écoutant, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que c'est la première fois qu'il forge quelque chose de ce point de vue-là. Il a parlé de la rigueur tranquille avec laquelle le déconfinement avait été opéré. Et la rigueur tranquille, le mot tranquille, toujours adossé à un autre mot, inévitablement fait penser au slogan de François Mitterrand sur la force tranquille. Et on ne peut pas ne pas y déceler une petite estampille de sa part.
Et dans Philippe, thème, un peu de culture politique, il ne l'a pas fait par hasard. C'est ça
on
que
va
vous
dire que sur le, on va dire cette petite carte postale, comme ça glissée entre les lignes, sur le thème « c'est ma signature ». Pour ceux qui peut-être auraient été un peu plus fébriles ou un peu plus impatients, eh bien, la rigueur tranquille est celle qui, pour Édouard Philippe, a finalement triomphé.
Qu'il a mené, et peut-être une réponse aussi à ceux qui pointaient des divergences potentielles avec Emmanuel Macron au moment de définir la stratégie de déconfinement. Un discours qui a été porté aussi beaucoup sur l'économie, le nouveau front du gouvernement. On y vient avec Emmanuel Duteil dans quelques secondes sur Europe 1. Tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs, entouré des grandes voix jusqu'à 19h.
On parlait de l'optimisme d'Edouard Philippe tout à l'heure à l'annonce de ces nouvelles mesures, de cette phase 2 du déconfinement qui va commencer mardi prochain. Optimiste, sur le plan sanitaire. Les résultats sont bons sur le plan sanitaire, a dit le Premier ministre, parce qu'évidemment, les chiffres de l'économie sont catastrophiques. On a vu le chiffre du chômage en hausse de 22% qui est apparu aujourd'hui. C'est le nouveau front, Emmanuel Dutheil, a dit Édouard Philippe tout à l'heure.
Oui, je vais vous lire ce qu'a dit Édouard Philippe. Un choc éco massif, je l'ai déjà dit dès le début et tout le monde le savait. Il est vrai que j'ai toujours évoqué la question du chemin de crête entre sécurité sanitaire et la reprise économique. La pente du côté de la reprise économique est aujourd'hui beaucoup plus abrupte que la sécurité sanitaire. On sent, le Premier ministre a appelé les gens à retourner au travail et on sent que c'est un peu, je ne sais pas comment les autres l'ont perçu, mais du bout des lèvres qu'il a dit, il faut continuer à télétravailler. On sent bien que là...
Il n'a pas beaucoup insisté dessus.
Non, il n'a pas beaucoup insisté dessus et on sent qu'il y a une volonté que ça reparte parce que effectivement, les indicateurs économiques, il n'y a pas d'autre mot, sont catastrophique. Vous citiez le chiffre du chômage dont on a parlé
dans le journal, pire que ce qui était prévu.
Parce que la dernière fois, on a vu des indications, c'était déjà très dur, puisqu'on parlait d'une récession de 8% pour cette année 2020. Quasi certitude que ce sera pire que cela. La reprise met du temps à venir, les gens mettent du temps à reconsommer normalement. Donc effectivement, on sent qu'il y a vraiment une grosse inquiétude de la part de l'exécutif en ce moment.
Et le chômage en hausse de 22% avec 12 millions de salariés en chômage partiel. Veut dire que c'est que le début ?
Alors, c'est effectivement que le début. Ce chiffre est un petit peu compliqué à expliquer pour ceux qui ne connaissent pas trop, et c'est la plupart des gens, le mécanisme du chômage. C'est-à-dire que le chômage est calculé en trois catégories, A, B, C. Je vais faire très simple, rassurez-vous. A, c'est quand on n'a pas du tout travaillé. B, un tout petit peu. Et puis C, un tout petit peu plus. Là, ce qui se passe, c'est que les gens qui avaient l'habitude de travailler un tout petit peu pendant le mois n'ont pas eu de travail à cause de la crise. Donc, c'est eux qui viennent principalement grossir le chiffre du chômage. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand on regarde l'énorme progression du chômage des jeunes. Et je pense que dans les échanges que Mickaël doit avoir avec les responsables politiques, je peux vous dire qu'ils sont catastrophé. Alors désolé, je vais changer de mot que catastrophique et catastrophé, mais ils sont très angoissés, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, très angoissés par ce chômage des jeunes. Pourquoi ? Parce que on parle beaucoup de la génération Covid en ce moment, et c'est une réalité. Et à tous les niveaux, vous cherchez une alternance pour finir même des études supérieures, vous n'en trouvez pas. Vous cherchez un apprentissage, vous n'en trouvez pas. Vous étiez en train d'entrer sur le marché du travail, tout le monde gèle les embauches en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça va durer des années, ou des mois même, mais pour le moment, il n'y a rien. Et là, je peux vous dire que quand vous parlez notamment avec les équipes de Bruno Le Maire, ils sont en train de travailler à des dispositifs pour inciter les entreprises à embaucher ces jeunes pour qu'ils ne soient pas sacrifiés sur l'autel du Covid.
Et là, tous les CDD se sont arrêtés, les contrats courts, les intérimaires, etc. C'est ce qu'on voit dans ces chiffres-là.
Oui, c'est exactement ça qu'on voit dans
les licenciements.
Non, alors, il y a quand même un quart de la hausse qui est due à de nouveaux inscrits. Donc, ces nouveaux inscrits, c'est sûrement, comme vous dites, Sébastien, des fins de CDD, les nouveaux entrants sur le marché du travail qui ne trouvent pas, et sûrement le tout début peut-être de premier plan de licenciement, mais on voit bien que pour le moment on est dans le domaine des annonces. Demain on va avoir, alors ce ne seront ni des suppressions de postes, ni des licenciements, mais ce seront sûrement des non-renouvellements de postes pour des départs à la retraite, mais demain ça va se calculer en milliers également chez Renault. D'ici quelques jours on va également avoir des milliers, là encore ce sera sûrement un plan de départ volontaire, mais chez Air France. Et je ne vous cite que les entreprises les plus connues. Donc il va y avoir des restructurations massives et effectivement, on est au début. Tout va dépendre de notre capacité à reconsommer, à redémarrer. Ça va tout changer. Déjà avec les restaurants, par exemple, qui vont rouvrir. C'est un pan gigantesque de notre économie. Et la saison touristique va être déterminante. Le tourisme, c'est plus de 7% de ce qu'on appelle notre PIB, donc de toute la richesse.
Et on comprend que parmi les annonces, tout rouvre en fait. Globalement, quasiment tout revient à la normale au mois de juin, y compris progressivement les salles de spectacle et les cinémas en juin.
Notamment en Ile-de-France. Alors c'est pas vrai pour ceux qui sont hors de l'Ile-de-France, mais quand vous êtes en Ile-de-France et notamment à Paris, que vous connaissez la largeur des trottoirs, bon courage à celui qui va être capable de gagner sa vie en ouvrant uniquement sa terrasse. Et en plus, je souhaite, et j'allais presque dire je prie, pour qu'il fasse beau. Parce que si vous rouvrez des terrasses sans qu'il fasse beau, en ce moment, on ne s'en rend pas compte. On a l'impression que c'est l'été depuis 3 mois. Mais il y a bien un moment où cet été risque aussi de s'arrêter.
Et d'ailleurs, cette réouverture des cafés-restaurants a suscité des débats, y compris au sein du Conseil de défense ce matin, Mickaël Darmon.
Le Conseil de défense, c'est le conclave le plus secret, le plus grave de la République. C'est là où se décident les opérations vraiment spéciales. C'est là où on fait toute la stratégie liée à la sécurité de l'État. Figurez-vous cet après-midi, ou ce matin plutôt, quand il a eu lieu, il a donné entendu, il y a des échanges assez intéressants entre le ministre de l'Intérieur et ses collègues, notamment à propos des cafés. Il y a une discussion sur savoir, pour savoir si à l'intérieur des bars, on devait être debout ou assis. Et à un moment donné, même d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dit à ses collègues, ou en tout cas, ne comptez pas sur moi, et c'est très certainement aux plus hautes autorités de l'État, ne comptez pas sur moi pour envoyer des policiers pour aller vérifier à l'intérieur des bars si les gens sont debout ou assis. C'est dire si cette situation a amené aussi, au fond, à des débats assez baroques à l'intérieur des réunions et des conclaves les plus, on va dire, les plus solennelles de l'État et de la République.
Donc les policiers n'iront pas forcément vérifier, mais en tout cas la consigne a été donnée par Édouard Philippe tout à l'heure. Les bars seront ouverts, mais on n'aura pas le droit de boire un verre debout au comptoir. Ni un café, ni rien d'autre. Ouais. On sera assis aux tables et une table un mètre sur un mètre,
etc. Vous savez, enfin, bon, Sébastien, vous n'êtes pas le dernier à aller dans un bar. Vous savez très bien comment ça va se passer.
C'est ce qu'on comprend quand on écoute Michael Darmon, donc ça va être compliqué de le contrôler, mais la consigne, effectivement...
Il a redit que la consigne des 10 restait la norme. C'est une consigne, hein. Ce n'est pas une contrainte législative, mais c'est une préconisation de rester à moins de 10 en société pour faire en sorte que le virus circule le moins possible.
On comprend l'impact économique. Est-ce qu'on a pris trop de précautions? Est-ce qu'on continue d'en prendre trop? Tiens, on va se poser la question dans un instant. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Sébastien Krebs, entouré des grandes voix jusqu'à 19h.
Ça va mieux, ça va mieux. La carte de France est verte. La France va continuer de se déconfiner la semaine prochaine avec la réouverture des cafés-restaurants. On en parlait avec la réouverture de toutes les écoles, de tous les collèges partout en France et des lycées, sauf dans la zone qui reste orange, c'est-à-dire l'Île-de-France, la Guyane et Mayotte. On a pris, Jimmy Mohamed, beaucoup de précautions depuis le 16 mars. On a maintenu encore beaucoup de précautions jusqu'à maintenant. Est-ce que maintenant on se pose la question, est-ce qu'on en a trop fait ?
Alors c'est vrai que c'est plus facile pour moi de commenter que de prendre des décisions, et de gouverner c'est difficile. Donc c'est plus simple de critiquer a posteriori une fois que c'est bien passé. Mais imaginez un scénario contraire, on déconfine plus facilement et plus largement et catastrophe, l'épidémie repart, on aurait été les premiers à les critiquer. Maintenant on peut aussi se poser des questions, on a dit tout et son contraire, et donc on peut comprendre que la prudence est de rigueur. On avait dit initialement que c'était une grippe qui allait tuer les personnes âgées, on avait quasiment accepté que des personnes âgées allaient mourir, et bien on s'est rendu compte que ça tuait aussi des jeunes. On a dit qu'il ne fallait pas de masque et puis finalement il en fallait. Même chose pour les enfants, on se rend compte que certains font des Kawasaki. On peut ouvrir les écoles, mais c'est une école quasi militaire, avec des règles qu'on ne comprend strictement pas. Et donc on peut comprendre qu'on soit un peu vigilant, même si de façon factuelle, les services de réanimation ne sont plus sous tension, même s'il y a des cas, il y a une occupation, les services d'urgence sont quasiment libres en termes de Covid. Et donc au bout d'un moment, on se pose des questions, mais il y a plein de réponses qu'on n'a pas encore. Pourquoi est-ce que cette épidémie a touché plus l'Île-de-France et le Grand Est, et pas la Nouvelle-Aquitaine ou la Bretagne? Pourquoi est-ce que la Grèce a été épargnée et pas l'Italie? Il y a plein d'interrogations. À mon avis, on aura peut-être des réponses d'ici quelques temps, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le confinement a sauvé des vies, mais il était temps que ça s'arrête. J'ai le souvenir d'une personne âgée de 80 ans, autonome, qui allait voir son mari, qui a aussi 80 ans, qui est dans un EHPAD. Il a fait un double AVC, et tous les jours, elle allait lui rendre visite. Elle faisait 10 km par jour, en parfait état général, et avec le confinement, elle ne sortait plus de chez elle. Et comme elle ne sort plus de chez elle, elle mange moins, elle est déprimée et donc elle marche moins et elle s'est déconditionnée du fait du confinement. Et donc pour eux, il était urgent de repartir enfin, il était urgent de repartir vers le chemin de l'école. Et en 30 secondes, un ami psychologue qui travaille dans un centre pour enfants, il m'explique qu'il y a un enfant qu'il suit de 9 ans, qu'il appelle tous les jours. Elle était en pleurs tous les jours puisqu'en fait sa mère, pendant le confinement, lui a posé les mêmes règles que lors de l'école, c'est-à-dire pas de télé à la maison, pas de jeux vidéo, sauf qu'elle n'avait aucune interaction sociale. Et cette gamine, elle est diabétique et comme elle est stressée, elle mange du sucre et elle a pris du poids. Et elle est triste parce que sa mère ne lui proposait rien à la maison. Donc il était urgent pour eux de reprendre le chemin de l'école, sauf que c'est une école partielle. Donc il va falloir qu'on reprenne un peu de vie, qu'on contrôle l'épidémie et peut-être qu'on arrête non pas ces psychoses, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est facile de donner des leçons. Les choses évoluent de façon positive, et puis, prenons ça au jour le jour.
Effectivement, et on ne tenait pas le même discours au mois de mars, au moment du rush. Vous parliez des personnes âgées, les familles vont pouvoir se retrouver aussi avec cette limite de 100 km qui saute. Juste une question rapide, qu'est-ce que vous dites aux familles qui pourraient être inquiètes d'aller d'emmener les petits-enfants chez les personnes âgées, par exemple? Ça y est, maintenant, on peut le faire, on arrête de se stresser.
On considère les enfants comme des bombes à retardement, on se demande est-ce qu'elles ne vont pas contaminer papy ou mamie. Moi, j'ai envie de vous dire que peut-être, malheureusement, les grands-parents tomberont malades, mais ce ne sera pas la faute des enfants. Donc, il faut qu'on arrête de porter aux enfants cette responsabilité. On a fermé les écoles précocement en pensant que l'épidémie partait de là. On s'est rendu compte que ce n'est pas forcément le cas. Donc, les enfants sont peu porteurs de la maladie, peu vecteurs de la maladie. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, il est possible de retrouver du lien social, d'aller voir les personnes âgées, peut-être en étant prudent. Si autour de vous, vous avez des cas, Évidemment, il faut éviter de voir les personnes fragiles et malades, mais pour l'instant, peut-être qu'on va pouvoir enfin voir les grands-parents. Je pense que c'est possible. Alors, personne ne vous dira oui, allez-y. Mais je pense quand même que pour cet été, on a respecté le confinement, le virus circule peu ou pas. On peut peut-être relâcher certaines mesures et enfin vivre des choses. Et pour certains, peut-être, c'est triste ce que je vous dis, mais peut-être que pour certains grands-parents, c'est le dernier été qu'ils verront leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, est-ce qu'on peut ne pas se relâcher, mais revivre un peu normalement? Je pense que c'est possible.
Allez, on va revivre et ça donne un peu des perspectives et des bonnes nouvelles ce soir. Emmanuel Duteil, on a, toute la politique a été faite depuis le mois de mars. C'était la santé avant tout. Là aujourd'hui, maintenant, ça va être l'économie avant tout. Est-ce qu'on n'a pas poussé le curseur trop loin quand on voit les résultats?
Ça, c'est trop compliqué d'y répondre parce qu'on ne saura jamais, je pense, si on n'avait pas confiné, qu'est-ce qui se serait réellement passé. Et donc, à partir du moment où on a pris la décision de confiner, il n'y avait pas d'autre solution que de soutenir l'économie comme ce qu'a fait le gouvernement. Là, aujourd'hui, la grosse inquiétude, je vous parlais tout à l'heure du chômage des jeunes, l'autre grosse inquiétude, c'est comment on fait pour enlever la soupape sociale qui a été mise en place pendant ce confinement, notamment le chômage partiel. Vous citiez tout à l'heure le chiffre de plus de 12 millions de personnes qui sont au chômage partiel. Alors, en réalité, il y en a un petit peu moins, parce que les entreprises déposent plus de demandes qu'est-ce qu'elles valident, mais on a quand même 9 millions de collaborateurs en ce moment au chômage partiel. Là, à compter de lundi prochain, du 1er juin, les entreprises vont devoir payer un peu du chômage partiel, et beaucoup quand même pour certaines, hein, c'est 15% de reste à charge pour les entreprises. C'est là maintenant, effectivement, que le plus dur commence, et j'ai presque envie de dire que quelle que soit la réalité de l'intérêt du confinement, c'est trop tard. Il a été fait et maintenant, il faut se mettre effectivement en opération commando de la même façon que l'opération commando a été menée pour lutter contre le Covid. Ça veut dire quoi l'opération commando? Ça veut dire acheter français, ça veut dire soutenir toutes nos entreprises qui peuvent s'effondrer, ça veut dire se remettre au travail, mais ça... Il n'y a pas de Français qui ne se sont pas mis au travail. C'est, tout le monde le voit dans ces entreprises. Quand on a pu travailler, il y a un attachement, en plus, la plupart du temps, des collaborateurs aux entreprises. Mais c'est vrai que là, il faut être honnête. On entre dans le pire moment et on voit que la France... Mais de toute façon, et en plus, c'est toujours comme ça. Mais non, on voit que la France a été plus touchée que les autres. Notre croissance a plus vite baissé que les autres. Et on sait que généralement, notre capacité de rebond est moins rapide que celle des autres. Donc là, il va falloir qu'on se batte dans le concert mondial pour essayer de s'en sortir. Mais après, on va s'en sortir.
Dernier mot, Mickaël Darmon, c'est justement tout l'enjeu de ce qui se prépare au sein de l'exécutif, le plan de relance en construction et toute l'acte 3 du quinquennat qui va démarrer maintenant, pour l'après-crise sanitaire.
Oui, ce que l'on dit aussi autour du président de la République, c'est qu'à partir du lendemain de l'élection municipale, hein, du 28 juin, qui manifestement maintenant se tiendra dans ces conditions le 28 juin, eh bien, on entre dans l'inconnu. C'est-à-dire que jusqu'aux abords de la fête nationale, il peut effectivement y avoir des annonces importantes de la part du président de la République, éventuellement une réorganisation gouvernementale, on verra son ampleur. Ce qui est vrai, et c'est ce qui déterminera aussi le plan de relance et la situation aujourd'hui économique, c'est que ce virus, on le voit, a agi comme une sorte de grand benchmark à l'échelle planétaire. Le même problème posé à tous les pays, on a vu comment chaque société a réagi avec ses codes, ses gouvernances, ses freins, ces blocages, et on a compris qu'en France il y avait un gros problème avec l'État.
Et avec des données d'épidémie qui étaient aussi différentes selon les pays, ce que nous disait le docteur Jimmy Mohamed. Merci à tous les trois, docteur Jimmy Mohamed. 15h, bien sûr, sans rendez-vous demain, l'émission Santé d'Europe 1, et vous revenez bien sûr dans le journal de 18h. Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonne soirée à tous les trois. Europe 1.